Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le temps de Noël nous fait célébrer deux mystères, la présentation de Jésus au Temple et la purification de la très sainte Vierge Marie, mystère que nous contemplons dans le quatrième mystère joyeux de notre rosaire. Ces deux mystères ont pour objet l'accomplissement d'une double loi que Dieu avait imposée autrefois aux enfants d'Israël. L'une de ces lois voulait qu'on offrît à Dieu tout enfant premier-né ouvrant le sein de sa mère, Aperiens vulvam. C'était un rappel de la nuit où les premiers-nés des Égyptiens furent tués par l'ange exterminateur, tandis que les premiers-nés des Hébreux avaient été épargnés parce que Dieu se les était appropriés, en quelque sorte. 40 jours après la naissance, on allait donc donner à Dieu les premiers-nés, puisqu'ils lui appartenaient. Pour les reprendre, on les rachetait, moyennant 5 cycles d'argent qu'on jetait dans le trésor du temple pour subvenir aux frais du culte et à l'entretien des prêtres et des divers ministres. Une autre loi prescrivait à toute femme qui était devenue mère par la semence de son mari, sous chepteau séminé, à accomplir un rite de purification légale 40 jours après la naissance de son enfant. Pour cela, elle devait apporter au temple, pour être offert en sacrifice, un agneau d'un an, ou si elle était pauvre, une colombe ou une tourterelle. Cela ne voulait pas dire que l'acte conjugal est un péché, puisque, accompli en état de grâce et selon les lois de Dieu, il est au contraire un acte méritoire pour le ciel. Mais cette purification purement légale, c'est-à-dire extérieure, rappelait que c'est dans l'acte conjugal, plus précisément par la semence de l'homme, que le péché originel est transmis, même quand l'acte est saint et pur. Ces deux lois ne concernaient pas en soi notre Seigneur et notre Dame. La loi de la présentation ne concernait que les enfants ayant ouvert le sein de leur mère. Or, notre Seigneur était sorti miraculeusement du sein de Notre-Dame, sans porter atteinte à sa virginité. On devait racheter à Dieu les premiers-nés, mais comment racheter à Dieu son Fils qui lui appartenait pour toujours? Quant à la loi de la purification, comment aurait-elle pu concerner la Vierge Marie, puisque Jésus avait été conçu miraculeusement par le Saint-Esprit et non au cours d'un acte conjugal? La Vierge Marie et Saint Joseph savaient tout cela, mais ils n'ont pas voulu décider par eux-mêmes de ne pas accomplir des rites que tout le monde observait en Israël. Comme le ciel restait silencieux, qu'aucun ange cette fois ne se manifestait, ne leur disait de ne pas aller au temple, Notre-Dame et Saint Joseph décidèrent de s'y rendre, pensant, à juste titre, que le plan de Dieu était alors qu'ils accomplissent ces cérémonies, même s'ils ne comprenaient peut-être pas entièrement pourquoi ils devaient le faire. Nous sommes encore dans la vie cachée de notre Seigneur, vie qui devait rester cachée aux yeux des hommes et aux yeux du démon. Si la Vierge Marie et Saint Joseph n'avaient pas accompli ces lois qu'observaient toutes les familles d'Israël, cela d'abord aurait fait parler. Cette désobéissance apparente n'aurait-elle pas scandalisé? Et le démon n'aurait-il pas commencé à avoir quelques soupçons sur l'origine divine de notre Seigneur? Personne ne sachant qu'il n'y était pas tenu, notre Seigneur préféra donner aux hommes un exemple d'obéissance à la loi de Dieu. Ces lois liturgiques bien compliquées et lourdes que Dieu avait dû instituer pour discipliner son peuple étaient d'ailleurs une lointaine annonce de la loi nouvelle que notre Seigneur nous apporterait par son sacrifice de la croix. Avant d'en décharger les hommes, Jésus voulut les accomplir toutes une dernière fois, avec une perfection infinie, par respect pour son Père qui les avait instituées. En se pliant à cette loi de la présentation, notre Seigneur allait pouvoir en même temps, à l'aube de sa vie, aller se présenter, s'offrir à son Père dans le temple, dans le lieu même où les Juifs offraient ces sacrifices d'animaux qu'il venait remplacer par son sacrifice de la croix. Seul sacrifice parfait capable de réconcilier les hommes avec Dieu. Quant à Notre-Dame, si unie à notre Seigneur dans l'œuvre de la rédemption depuis son fiat, comment n'aurait-elle pas emprunté le même chemin que son Fils, se pliant humblement aux lois communes des mères d'Israël, et s'unissant à l'avance au sacrifice de son Fils en s'offrant avec lui à Dieu le Père dans le temple? C'est alors que le ciel, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment, voulut mettre son sceau sur ce que venaient de faire Notre-Dame et Saint-Joseph. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et craignant Dieu, et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit-Saint était en lui. Et il lui avait été révélé par l'Esprit-Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il était venu ce matin-là au temple, poussé par l'Esprit de Dieu. Dès qu'il vit la Sainte Famille, éclairée par une lumière d'en haut, il s'approcha. Et à la surprise de Joseph et de Marie, il prit l'enfant, l'éleva, puis il s'exclama, « Maintenant, Seigneur, vous laisserez votre serviteur s'en aller en paix selon votre parole, car mes yeux ont vu le salut qui vient de vous, que vous avez préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer la nation et gloire d'Israël, votre peuple. » Oui, Jésus est la lumière du monde. Il est venu sur terre pour dissiper les ténèbres du péché et de l'erreur. Tout à l'heure, la liturgie de l'Église, qui est très concrète, nous a fait mettre nos pas sur les pas de Joseph et de Marie se rendant au temple, dans cette procession qui a précédé la messe. Et de la même manière que Saint Joseph et Notre-Dame portaient l'enfant Jésus, la liturgie nous a fait tenir un cierge allumé qui représentait notre Seigneur. Dans la nuit du samedi saint à Pâques, nous processionnerons encore dans l'obscurité, n'ayant pour guide que la lumière du cierge pascal symbolisant Jésus ressuscité. La signification est la même. Jésus doit être la lumière de notre vie, sinon nous nous égarerons dans les ténèbres du monde, les ténèbres de l'erreur et du péché. Mais notre Seigneur ne peut être la lumière de notre vie que d'abord que si nous sommes en état de grâce, que nous, si nous obéissons à la loi de Dieu, comme il nous en a montré l'exemple. Si quelqu'un vit dans le péché, son intelligence est obscurcie par les passions. Notre Seigneur est aussi notre lumière lorsqu'il éclaire notre esprit dans la prière, dans l'oraison, ou lorsque nous lisons la Sainte Écriture et que nous étudions la doctrine catholique qui n'est que l'explication de la Sainte Écriture. Explication avec l'aide du Saint-Esprit, l'explication que donne l'Église, inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que notre Seigneur nous guide tout au long de notre existence et que nous arriverons au ciel si nous suivons ses inspirations. Mais Siméon continue. Voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe de contradiction. Saint Jean dira en écho, « La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Les ténèbres, c'est le monde dont le prince est Satan. La venue de notre Seigneur sur terre a séparé l'humanité en deux camps. C'était annoncé dès les premières lignes de la Bible. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, dit Dieu à Satan, entre ta descendance et sa descendance. Elle te brisera la tête et tu la mordras au talon. » La femme prophétisée ici, c'est la Vierge Marie. Et Dieu annonçait à l'avance le combat de tous les siècles entre ceux qui sont, consciemment ou non, dans le camp du démon et les fils de Marie. Et à Fatima, Notre-Dame a annoncé que nous étions entrés dans la bataille finale. Il ne faut donc pas s'étonner, quand on essaye de vivre pleinement sa vie chrétienne, de rencontrer des incompréhensions, de l'opposition autour de nous, parfois même au sein de notre propre famille. C'est douloureux, mais c'est un fait. Et évidemment, aujourd'hui, plus le monde se déchristianise, plus la manière de vivre tranche entre les chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Sans compter les difficultés que rajoute la crise dans l'Église et les opinions différentes dans les familles autour de nous, etc. Nous vivons une époque où, un peu comme les premiers chrétiens, nous avons une opportunité extraordinaire pour notre salut, de prouver à notre Seigneur notre fidélité et notre amour, et de faire ainsi une moisson de mérite davantage qu'en d'autres temps, où c'est la paix de l'Église. Mais dans une telle époque, il y a en même temps la tentation de faire des compromis pour éviter justement l'incompréhension du monde, et aussi parce qu'on est attiré par la vie facile que propose le monde actuel, et il sait bien s'y prendre avec toutes ses publicités. On passe son temps sur Internet, sur les réseaux sociaux. On est à l'affût de tout ce que disent les médias, sans réaliser qu'ils changent notre manière de penser, parce qu'ils jugent toute chose selon des principes opposés à ceux de notre Seigneur et à ceux de l'Église, sans compter les mensonges qu'ils ont l'art de répandre. On organise des mariages avec une belle messe traditionnelle le matin, et le soir on danse comme les païens. On suit l'immodestie vestimentaire des gens de la rue, etc. Les premiers chrétiens n'avaient pas ce genre de compromission. Ils n'allaient pas au jeu du cirque. Ils tranchaient jusque dans leur habillement sur la foule dissolue et immodeste de la Rome décadente. Et ils ont converti le monde païen. L'abbé Berthaud, théologien de Mgr Lefebvre au Concile, écrivait qu'il en est de l'influence que les hommes peuvent avoir les uns sur les autres, comme des vases communicants. Il faut un minimum de ressemblance avec ceux qui n'ont pas la foi pour avoir une vie sociale, pour établir le contact, et en même temps, le maximum de différence pour les élever. Ce qui s'est passé depuis 50 ans, et disons-le depuis la Révolution, par manque d'esprit de foi, les chrétiens ont été de compromis en compromis, de reculade en reculade, pour se faire accepter du monde. Et au lieu de convertir le monde, c'est le monde qui les a convertis. Quand on ne vit pas comme on pense, on en vient à penser comme on vit. Et la France aujourd'hui est dans l'apostasie. Les vases communicants ont bien fonctionné, mais à l'envers. Alors au cours de cette messe, demandons surtout la fidélité. Il en va de notre salut éternel et de la survie de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.